Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Le Monde aujourd'hui. Bienvenue dans cette édition du mercredi 11 janvier 2023. Avec vous, Eric Mandakiza. Voici d'abord le sommaire. Au Nigeria, 12 membres de forces de sécurité tués dans une embuscade par des hommes armés non identifiés dans l'état de Kaduna. L'ONU s'inquiète de l'aggravation massive de l'insécurité alimentaire au Sahel. Un rapport onusien parle aussi de mortalité infantile toujours alarmante, mais notamment l'accent sur les inégalités payantes à travers le monde. Le Zimbabwe restreint sévèrement le droit de grève des professionnels de santé et instaure une peine de prison. Ici aux États-Unis, procureurs et policiers fédéraux dans le viseur des républicains de la Chambre des représentants. Les mémoires du prince Harry sont arrivées ce mardi dans les rayons des librairies avec son grand déballage d'attaque contre la famille royale britannique. Également dans cette édition, les sports de Yacouba Ouédraogo. Bientôt le retour de Paul Pogba sur les terrains. Enfin, les sources d'énergie renouvelables permettent au Kenya de produire environ 86% de l'électricité. On en parle dans notre actualité économique, mais d'abord le journal. Au Nigeria, 12 membres de forces de sécurité ont été tués dans une embuscade dans l'état de Kaduna, dans le nord-ouest du pays, où sévissent gangs criminels et djihadistes. Le point avec Mohamedou Oumfa.
7 membres du corps de sécurité et de défense civile du Nigeria ont été tués dans une embuscade, ainsi que 5 membres d'une autre agence de sécurité, a déclaré Olusola Odumosu, porte-parole d'une organisation paramilitaire qui seconde l'armée. Il n'a pas donné de précision sur les 5 victimes étrangères de son groupe d'autodéfense. L'embuscade s'est produite lundi autour d'un site minier dans la région de Birnin Gwari. Les assaillants ont emporté les fusils, a déclaré M. Odumosu, mais il n'a pas dit quel groupe était responsable de cette attaque. Elle intervient peu après la prise d'assaut d'une gare dans l'état d'Edo, dans le sud du Nigeria. Une 30aine de personnes ont été enlevées. En mars, l'an dernier, des hommes armés ont fait sauter la voie ferrée entre Abuja et Kaduna pour enlever près d'une 100aine de passagers qui seront relâchés au fil des mois contre paiement de rançon. L'insécurité est devenue le thème central de la campagne électorale en cours. Le 25 février, les Nigérians vont élire un successeur au président Muhammadu Buhari qui ne peut pas se représenter après ses 2 mandats.
La justice sénégalaise a ordonné ce mardi la remise en liberté provisoire sous contrôle judiciaire du journaliste Pape Alain Niang, avec interdiction stricte de s'exprimer sur le dossier, interdiction de quitter le territoire et obligation de remettre son passeport et de se présenter au cabinet du magistrat instructeur une fois par mois, a dit l'un de ses conseils, Maître Moussa Sarr. Patron du site d'information Dakar Matin et critique du pouvoir, le journaliste a été inculpé et écroué le 9 novembre. Les autorités lui reprochent d'avoir diffusé des messages confidentiels sur le dispositif sécuritaire autour de l'interrogatoire de l'opposant Ousmane Sonko le 3 novembre dans une affaire de viol présumé. Elle accuse aussi de diffusion de fausses nouvelles. L'ONU s'est inquiétée ce mardi de la dégradation massive de la sécurité alimentaire au Sahel, exacerbée notamment par la guerre en Ukraine, avec en 6 mois plus de 5 millions de personnes supplémentaires en situation d'insécurité alimentaire grave dans la région. Le point avec Rosine Mounetzer.
La crise alimentaire frappant le Sahel a été aggravée par les pénuries de blé et d'engrais entraînées par le conflit en Ukraine, selon un rapport du secrétaire général de l'ONU présenté mardi devant le Conseil de sécurité. Plus de 18,6 millions de personnes se trouvent en situation d'insécurité alimentaire grave, soit 5,6 millions de plus que lors du précédent rapport de juin 2022. Et pour 2,1 millions de personnes, cette situation a atteint un niveau extrêmement critique, précise ce rapport semestriel sur la situation au Sahel, notant que les pays les plus touchés sont le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria. De manière générale, la situation humanitaire est restée catastrophique et a été aggravée par une hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie par de fortes pluies, des inondations et la pollution de l'eau. En plus, les conditions de sécurité ont continué de se détériorer selon Giovanni Biha, représentante spéciale de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel.
5 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 2021, un nombre alarmant malgré des progrès enregistrés depuis le début du siècle, selon des estimations de l'ONU publiées ce mardi qui soulignent les disparités de la mortalité infantile à travers le monde. Les enfants d'Afrique subsaharienne ont ainsi le plus de risques de mourir avant leur 5e anniversaire. Cette région a enregistré 56% des décès d'enfants de moins de 5 ans en 2021, devant ceux d'Asie du Sud. Le rapport dénonce ces morts intolérables parce que largement évitables, grâce notamment à une meilleure prise en charge à la naissance, à la supplémentation alimentaire, à des programmes d'assainissement de l'eau et à la vaccination. La visite conjointe en Éthiopie des chefs de la diplomatie française et allemande jeudi et vendredi permettra d'afficher la force du partenariat et du couple franco-allemand sur les questions interminables et notamment africaines, a indiqué ce mardi une source diplomatique française. Les deux ministres se rendent à Addis Abeba avec l'objectif d'encourager et soutenir le processus de paix entre gouvernement fédéral et rebelles du Tigré. Par ailleurs, les rebelles tigréens ont commencé à rendre leurs armes lourdes, point clé de l'accord signé il y a plus de 2 mois pour permettre un terme à un conflit meurtrier dans le nord de l'Éthiopie, a déclaré un porte-parole des autorités rebelles. Cet accord prévoit notamment un désarmement des forces rebelles, le rétablissement de l'autorité fédérale du Tigré et la réouverture des accès et communications à cette région du nord de l'Éthiopie, isolée depuis mi-2021. Le Zimbabwe a officiellement publié ce mardi une loi qui restreint le droit de grève des professionnels de santé. La loi instaure une peine de prison dans un contexte de protestation récurrente pour dénoncer des salaires trop bas et un système à l'agonie. Le point avec Abdourahmane Dia.
La loi adoptée fin novembre par le Parlement interdit aux médecins et infirmiers de poursuivre une grève au-delà de 72 heures. Les représentants syndicaux organisant des manifestations contraires aux nouvelles règles encourent une peine de 6 mois de prison. Le directeur de l'Association zimbabwéenne des médecins pour les droits de l'homme, Calvin Fimbirei, a dénoncé une loi draconienne qui risque d'aggraver, selon lui, la fuite des cerveaux. En juin, les professionnels de la santé ont organisé une grève d'une semaine pour dénoncer le manque de paracétamol et de simples bandages. Plus de 4000 travailleurs dans le secteur de la santé ont démissionné des infrastructures publiques l'an dernier, un nombre important d'entre eux étant partis chercher du travail à l'étranger. Le Zimbabwe est plongé dans une grave crise économique depuis une vingtaine d'années, marquée par une inflation galopante, une pénurie de produits de base et des hôpitaux sous-équipés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les mémoires du prince Harry Speer sont officiellement en vente depuis hier mardi. Voici quelques morceaux choisis avec des détails sur la famille royale en Grande-Bretagne. Jean-Roger Bion.
Le prince Harry affirme que son frère aîné, le prince William, l'a attaqué lors d'une dispute au sujet de sa femme Meghan. Il m'a attrapé par le collet et m'a fait tomber par terre. J'ai atterri sur la gamelle du chien qui s'est brisée sous mon dos. Il ajoute qu'il recherchait désespérément la compagnie de William après la mort de leur mère Diana, mais que son frère l'a renié lorsqu'il a commencé à fréquenter la même école supérieure, Eton College. Il révèle aussi que Charles III, le roi actuel, avait l'habitude de plaisanter en se demandant s'il était vraiment son père. Les passages les plus émouvants du livre évoquent la mort de sa mère Diana et le long refus d'Harry de croire qu'elle était vraiment partie. Harry affirme que lui et William ont supplié leur père de ne pas épouser la reine consort Camilla, avec laquelle Charles avait une liaison alors qu'il était marié à leur mère, qui elle-même avait une liaison avec Dodi Al-Fayed, un milliardaire égyptien. Enfin, le prince reconnaît avoir consommé du cannabis régulièrement et de la cocaïne à plusieurs reprises lorsqu'il était adolescent, disant qu'il était prêt à essayer presque tout ce qui pouvait modifier l'ordre préétabli.
Les élus républicains ont lancé ce mardi leur croisade au Congrès contre l'administration du président Joe Biden avec la mise en place d'une commission chargée d'enquêter sur ces enquêteurs. La nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants a approuvé la création d'une commission spéciale sur l'instrumentalisation des agences fédérales.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Mohamedou Oumfa.
Le FMI a annoncé lundi le déblocage immédiat pour le Sénégal d'une enveloppe de 216 millions de dollars, selon l'agence de presse sénégalaise APS. L'affaiblissement de la demande extérieure, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, le resserrement des ressources financières et l'appréciation du dollar américain ont eu une incidence négative sur l'économie sénégalaise, a analysé l'institution financière internationale dans un communiqué. Environ 86% de l'électricité produite au Kenya provient désormais des sources d'énergie renouvelable à la suite d'investissements accrus dans le secteur, a déclaré le directeur général de l'autorité de régulation de l'énergie et du pétrole. La compagnie kenyane d'électricité a annoncé qu'elle entendait injecter, issue d'énergie renouvelable, dans le réseau national au cours des 10 prochaines années. En Égypte, le taux d'inflation annuel a grimpé à 21,9% en décembre 2022 contre 6,5% en décembre 2021, a annoncé mardi l'agence statistique officielle du pays. La hausse des prix des produits de base était à l'origine de la montée du taux d'inflation mensuel, a-t-elle ajouté. Selon des experts, la montée de l'inflation en décembre était prévisible en raison de la dévaluation de la monnaie locale et elle devrait encore augmenter en janvier.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports, Yakuba Ouedraogo, avec vous. Bonjour Yakuba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le Mali bat la RDC en match de préparation du CHAN 2023.
Oui, les Aigles à Plume se sont imposés devant les Léopards à Plume 1-0 au stade Bouali Lawar de Sousse en Tunisie. L'unique but de la rencontre a été inscrit par Makan Samabali en début de partie à la 19e minute. Les Maliens réussissent ainsi leur phase préparatoire du championnat d'Afrique des Nations, demeurant invaincus depuis leur match nul inaugural dimanche face à l'Ouganda 0-0. Le Mali joue son dernier match de préparation vendredi contre le club tunisien d'espoir sportif Hammam de Sousse. C'est par contre un coup d'arrêt pour la RDC qui avait battu la Libye 3-1, toujours en amical. Pendant la compétition prévue du 13 janvier au 4 février, logés dans le groupe B, les Congolais vont faire face à l'Ouganda, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Mali, lui, est dans la poule D où il affrontera l'Angola et la Mauritanie.
Sébastien Haller a joué avec Dortmund.
L'attaquant ivoirien qui se remet d'un cancer des testicules a disputé quelques minutes du match amical joué ce mardi par son équipe du Borussia Dortmund contre le Fortuna Düsseldorf à Marbella en Espagne. Sébastien Haller est entré en jeu à la 73e minute de la rencontre, remportée par Dortmund 5-1. C'était un moment extraordinaire, a commenté l'ivoirien sur le site du Borussia Dortmund. C'est la première fois que le joueur de 28 ans porte le maillot du club allemand. Son cancer a été diagnostiqué en juillet dernier, quelques jours seulement après la signature de son contrat avec Dortmund en provenance de l'Ajax Amsterdam. Sébastien Haller a subi depuis 2 opérations et suivi 4 cycles de chimiothérapie.
Et puis Paul Pogba de retour à l'entraînement avec la Juventus.
Le milieu international de la Juventus Turin a pu participer ce mardi à un entraînement collectif pour la première fois depuis octobre. Paul Pogba a été privé du Mondial 2022 après avoir été opéré d'un ménisque début septembre. Les Bianconeri ont diffusé sur leur site quelques photos et vidéos de la séance du jour sur laquelle le joueur de 29 ans apparaît balle au pied au milieu de ses coéquipiers. Le retour à la compétition du champion du monde 2018 pourrait avoir lieu d'ici la fin janvier. Pogba n'a plus disputé de match officiel depuis sa blessure avec Manchester United le 19 avril 2022.
En France, Noël Le Gray de nouveau épinglé le jour d'une audition ministérielle cruciale.
Après la vague d'indignation suscitée lundi par ses propos sur Zinedine Zidane, l'étau se resserre sur le président de la Fédération française de football. Dans ce contexte, le témoignage de l'agente de joueur Sonia Saoud sur des accusations de harcèlement sexuel pourrait lui être fatal. Il m'a dit en tête à tête dans son appartement très clairement que si je voulais qu'il m'aide, il fallait passer à la casserole, affirme Sonia Saoud. Elle évoquait ainsi un entretien remontant à 2014, lors duquel elle souhaitait discuter de la promotion du football féminin.
C'était les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakizado, retour avec vous. Place au dossier du jour. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba opère des changements dans son gouvernement à 8 mois de la présidentielle. Un de ses fidèles, Alain-Claude Bilinze, a été nommé premier ministre alors que Rose Christiane Osuka-Raponda, qui occupait ce poste, devient vice-présidente. Comment interpréter ces changements au moment où le Parti démocratique gabonais appelle le président Bongo à briguer un troisième mandat? C'est la question qu'Abdrahman Dia a posée au docteur Auguste Eyene Essono, analyste politique basé à Libreville.
Le régime date quand même de plusieurs décennies. Et à travers ces décennies, le régime s'est transformé, s'est régénéré en repuisant dans son passé. Et c'est le même régime qui continue depuis des décennies.
Alors Alain-Claude Bilinze à la primature et Rose Christiane Raponda à la vice-présidence, ce sont des fidèles du président Bongo à des postes clés.
En effet.
Faut-il y voir un lien avec la présidentielle qui aura lieu dans 8 mois?
Disons qu'on peut y voir un lien. Peut-être le régime est en train de se préparer, en train de repositionner, redistribuer ses forces pour se préparer à conserver le pouvoir. Et on peut comprendre que c'est un repositionnement des forces politique en interne qui a lieu de sorte, en effet, à se préparer à conserver le pouvoir.
Le poste de vice-président a été occupé par un opposant de 2017 à 2019, en l'occurrence Pierre Claver Moussagou. Est-ce qu'on s'éloigne davantage d'un dialogue politique entre le pouvoir et l'opposition?
Ce que je puis vous dire, c'est que celui que vous appelez opposant, déjà, lorsque M. Manganga Moussavou se fait appeler opposant aujourd'hui, j'en suis à me demander finalement à qui correspondrait cette identité politique dans notre pays, parce que s'il y a une opposition dans notre pays, on peut essayer de chercher, on peut essayer de voir, on peut trouver quelques-uns qui mériteraient de porter ce qualificatif. Mais de mon point de vue, Manganga Moussavou n'a vraiment jamais été, depuis plus de 30 ans, un véritable opposant au président Bongo. Donc ça, alors, c'est dans. Cela veut donc dire que je pense que c'est au sein de la majorité qu'on se repartage les postes, les fonctions et les prébendes, simplement.
Sur la base de tout cela, vous pensez que le président Bongo va se représenter cette année encore pour la troisième fois, puisque son parti, le PDG, lui demande de se représenter?
Disons que je présume qu'il va se représenter. Il n'est pas certain que le calcul politique qu'on fait aujourd'hui soit déjà pas anachronique d'ici quelques mois.
C'était Dr. Auguste Eyene Essono, analyste politique basé à Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Cameroun, 3 grands projets miniers d'exploitation du minerai de fer vont démarrer en cette année, d'après une annonce faite par le président Paul Biya à l'occasion de son discours à la Nation le 31 décembre. À travers ces projets, le gouvernement espère des financements supplémentaires. De Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Jules Ntap.
Le gouvernement camerounais s'attend à d'importants bénéfices avec le démarrage des 3 projets miniers d'exploitation de fer, au nombre desquels les retombées fiscales, l'amélioration de la balance commerciale de l'État et la création des emplois dans les zones rurales où ces projets miniers sont installés. Fru Jonathan, directeur général adjoint de la Société nationale des mines, Sonamine.
Ils sont les premiers qui vont contribuer à l'industrialisation du secteur minier par cette annonce. Le gouvernement va accélérer les procédures pour s'assurer que ces sociétés vont effectivement être à pied d'œuvre avec de retombées en termes de développement, en termes d'emploi, en termes de développement économique.
Deux de ces 3 projets miniers sont implantés dans la région du Sud. Il s'agit de l'exploitation du minerai de fer de Kribilobé, qui devrait faire gagner à l'État du Cameroun 22,9 milliards de francs CFA par an, dont 4,9 milliards aux communautés locales. Le deuxième projet porte sur l'exploitation du fer de Bipindi Grand Zambie qui intègre la construction d'un complexe sidérurgique pour la transformation locale du fer, en plus du pipeline et d'autres infrastructures de base. Quant au troisième projet implanté dans la région de l'Est, il concerne l'exploitation du gisement de fer de Mbalam Nabeba et prévoit la construction d'une ligne de chemin de fer de 540 km entre Nabeba au Congo et le port autonome de Kribi au Cameroun. Gabriel Dodon-Doke, ministre des Mines, de l'Industrie et du développement technologique.
Pour ces trois projets, le permis d'exploitation est donc signé et un plan de déploiement a été déjà négocié avec les entreprises concernées. Et il reste donc sur le terrain le plan d'implantation de ces différents projets puisse être mis en œuvre.
Mais la société civile émet quelques réserves. Docteur Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, CED.
La répartition de la manne minière va en très grande partie entre les mains des exploitants et l'État ne reçoit qu'une portion congrue. Quand on regarde la localisation des permis miniers annoncés en ce moment, on ne peut que se préoccuper des retombées environnementales pour s'assurer que l'exploitation ne se traduira pas par un désastre écologique, mais également un désastre humain, parce que si la nature est détruite, les personnes en souffriront. Sur le plan foncier, dans certaines de ces zones, on a encore des projets miniers qui viennent se rajouter à tous les projets reposant sur la terre et créent donc des risques de conflits fonciers.
Le Cameroun a un sous-sol riche, mais le secteur minier au pétrole contribue jusqu'ici qu'à 1% au produit intérieur brut. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les États-Unis ont annoncé dimanche qu'ils accordaient une nouvelle aide militaire de 9 millions de dollars pour soutenir la campagne en cours en Somalie contre les militants d'Al-Shabaab. Il s'agit du premier soutien militaire direct de ce type depuis le retour des forces américaines en Somalie. Le reportage de Ahmed Mohamed depuis Mogadiscio, le récit avec Idriss Fall.
L'ambassade des États-Unis à Mogadiscio a remis dimanche des équipements militaires au gouvernement somalien. Selon un tweet de l'ambassade, les armes et les véhicules vont soutenir la campagne de l'armée somalienne contre le groupe Al-Shabaab. Abdul Kadir Mohamed Nour est ministre somalien de la Défense.
Ce don militaire des États-Unis est une preuve de confiance et témoigne que l'on peut faire confiance à l'armée somalienne pour gérer les armes sans qu'elles ne tombent dans de mauvaises mains. Ces armes vont jouer un rôle important dans la lutte contre les Khawarij.
Khawarij est un terme péjoratif utilisé par les responsables somaliens pour désigner Al-Shabaab. Matt Bryden, un expert en sécurité, est le fondateur de Sahan Research, un groupe de réflexion couvrant la Corne de l'Afrique.
Le récent engagement des États-Unis à fournir un soutien supplémentaire à l'armée est un signe de confiance. Ce n'est pas une énorme somme d'argent, mais c'est un signe de confiance dans le progrès que l'offensive actuelle contre Al-Shabaab fait dans les régions centrales de la Somalie.
Les forces somaliennes sont engagées dans une offensive aux côtés des milices claniques locales contre Al-Shabaab depuis juillet. Les forces pro-gouvernementales ont repris de nombreux villages et villes dans l'état de Hirshabelle. Cependant, les militants continuent de lancer des contre-attaques visant les forces gouvernementales et les civils. Abdi Jassis Isaac, expert en sécurité auprès du centre de civilisation Hamad bin Khalifa, estime que le nouveau paquet d'aide militaire sera essentiel pour l'armée somalienne qui dispose d'un arsenal limité.
L'aide militaire aidera la Somalie dans la guerre contre Al-Shabaab. Le principal défi de l'armée somalienne, c'est qu'elle possédait des armes du même calibre que celles d'Al-Shabaab, ce qui rendait difficile de gagner la guerre contre ce groupe.
Les États-Unis comptent parmi les plus grands soutiens à l'armée somalienne, en particulier son aile commando, les forces spéciales d'ANAB, qui sont formées pour les combats rapprochés dans les zones urbaines.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum cette semaine, le débat sur l'immigration aux États-Unis. Le président Joe Biden s'est rendu à la frontière sud par où des dizaines de milliers de migrants sont entrés ces derniers mois. Il s'est ensuite rendu au Mexique où le sujet est également abordé. Le président américain promet de réparer avec humanité un système d'immigration cassé, mais son projet de restriction du droit d'asile est critiqué par des associations de défense des droits humains. Comment expliquer cet afflux de migrants à la frontière avec le Mexique et quelles solutions face à la crise de l'immigration? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Le ministère kényan de la Santé a affirmé que la plateforme numérique d'éducation sexuelle lancée pour endiguer le problème des grossesses précoces dans le pays a attiré plus de 5000 jeunes. Nenana Binti parlait avec une sœur en Swahili, fournit des informations et des conseils sur la santé reproductive par le biais d'une application mobile et d'un numéro gratuit aux adolescentes kenyanes. Celles-ci ont le troisième taux de grossesse le plus élevé au monde. Un reportage de Victoria Amunga à Nairobi, au Kenya. Le récit de Arzuma Compaoré.
Les récentes données au niveau national montrent qu'au Kenya, une adolescente sur cinq est mère à l'âge de 19 ans. Le pays se classe au troisième rang mondial des grossesses chez les adolescentes. Des ONG tentent d'apporter leur concours par l'éducation sexuelle via le numérique. Une application mobile appelée Nenana Binti, qui signifie « parler avec une sœur » en swahili, fournit aux adolescents des informations détaillées sur la santé reproductive et offre une interaction directe avec des professionnels et des conseillers à distance. Un numéro de téléphone est également disponible. Janet Awino fait partie des quelques 5000 jeunes qui utilisent ces plateformes, notamment pour l'éducation au planning familial.
Je parle avec une personne que je ne peux pas voir, ce qui m'aide à parler librement. On ne peut pas parler avec n'importe qui. Certaines personnes ne savent pas garder les secrets.
Virginia Mushira, mère d'un enfant, dit qu'elle aurait pu bénéficier des informations sur la sexualité fournies par ce type d'application.
Ma mère et mon père n'étaient pas du genre à m'apprendre ces choses-là. Nous nous retrouvions à table pour manger, puis chacun allait de son côté. Ils parlaient d'autre chose, mais pas de sexualité. Ils ne m'auraient jamais parlé de ça.
Selon une étude réalisée en septembre 2022 par le ministère de la Santé kényan, le manque d'informations sur la santé reproductive a contribué à une augmentation des grossesses chez les adolescentes. Les experts affirment que de nombreux adolescents ont peur de parler de sexualité avec leur famille et que l'accès à ces informations peut grandement les aider.
Beaucoup de clients qui appellent, surtout s'il s'agit d'adolescents, veulent en savoir plus sur les menstruations. D'autres appellent pour s'informer sur les jours infertiles, d'autres pour connaître les effets des contraceptifs.
Rita Obonio, du réseau de santé reproductive.
Certains veulent retourner à l'école, alors nous les y ramenons. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas continuer l'école, alors nous leur donnons des compétences. Certains reçoivent également des cours sur l'employabilité et la création d'entreprises.
Le ministère de la Santé du Kenya a adopté en juillet une politique nationale de santé reproductive sur 10 ans qui vise notamment la santé reproductive des adolescents et des jeunes adultes. Les autorités espèrent que des initiatives telles que Nenana Binti aideront à réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes dans les années à venir.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. Au micro, Eric Manirakidza, site internet voaafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
Wake up, Angola, I'm thirsty, yeah. Wake up.
Ethiopia.